Arsène Lupin.
La perle noire. Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro 9 de l'avenue Hoche. Elle tira le cordon en grognant.
« Je croyais tout le monde rentré. Il est au moins 3 heures. »
Son mari bougonna.
« C'est peut-être pour le docteur. »
En effet, une voix demanda.
« Le docteur Harel, quel étage ?»«
3e à gauche. Mais le docteur ne se dérange pas la nuit.
Il faudra bien qu'il se dérange. »
Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, 2 étages, et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au 5e. Là, il essaya 2 clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre, le verrou de sûreté. « À merveille !» murmura-t-il. « La besogne est considérablement simplifiée. Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite. Voyons, ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui ? Pas encore. Un peu de patience. »
Au bout d'une 10aine de minutes, il descendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point, l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que Le Pen ne puisse s'y introduire. Il entra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les 5 étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son pardessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre.
Ouf, ça y est, et combien facilement. Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille. Trop commode même. Cela devient fastidieux.
Il déplia un plan détaillé de l'appartement.
Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis. Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là, il paraît que la comtesse a un goût déplorable. Pas un bibelot de valeur. Donc, droit au but. Ah ! Voici le tracé d'un couloir. Du couloir qui mène aux chambres. À 3 mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse.
Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant
1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Voici la porte. Comme tout s'arrange, mon Dieu. Un simple verrou, un petit verrou me sépare de la chambre et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à 1,43 m du plancher. De sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés. »
Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta.
« Et si, par hasard, ce verrou n'était pas poussé ?»«
Essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. »
Il tourna le bouton de la serrure. La porte s'ouvrit.
« Mon brave Lupin, décidément la chance te favorise. » Que te faut-il maintenant? Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer? Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire? Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit.
Arsène Lupin employa bien 1 demi-heure pour ouvrir la 2e porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue.
Cela le conduisait à un fauteuil, puis à une petite table située près du lit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres et, enfermé tout simplement dans cette boîte, la perle noire. Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agitât, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Et il s'en étonnait, car enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennelles. Nul danger ne le menaçait. Alors pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée? Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait? Cette vie si voisine de la sienne? Il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré, comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis, par petits gestes insensibles, rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin, il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle et à s'en aller. Heureusement, car son cœur recommençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée, et avec un tel bruit qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveillât point. Il l'apaisa dans un élan de volonté prodigieux, mais au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau renversé. Et aussitôt, un autre objet se présenta, une pendule. Une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une gaine de cuir. Quoi? Que se passait-il? Il ne comprenait pas. Ce flambeau, cette pendule, pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle? Ah, que se passait-il dans l'ombre effarante? Et soudain, un cri lui échappa. Il avait touché. Oh, à quelle chose étrange, innommable! Mais non, non, la peur lui troublait le cerveau. 20 secondes, 30 secondes, il demeura immobile, épouvanté, de la sueur aux tempes, et ses doigts gardaient la sensation de ce contact.